Bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Dwayne.
Hello tout le monde.
D'ATH.
Salut.
Et de Maureen.
Salut à tous.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons d'un remake de Metroid Prime, nous évoquerons Nintendo dans le cloud, on parlera de Rocket League, du cross-platform chez Sony, et enfin, on terminera avec Project Judge, le nouvel épisode de la saga Yakuza. Sans oublier notre discussion de la semaine, n'est-ce pas ? Gamekult qui passe au tout payant. C'est assez ballsy, hein, on va pas se le cacher. Il y a un vaste sujet à aborder, là, celui de la presse payante, etc. Je pense que ce sera intéressant. Allez, c'est parti, et on va commencer avec un remake amateur de Metroid Prime. Il y a une vidéo qui est récemment sortie sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, d'un certain Phil Steffes, qui a tout simplement décidé que, vas-y, je vais faire mon remake de Metroid Prime à moi, je vais pas utiliser un seul asset de Nintendo, et c'est parti. Alors, j'ai envie de dire respect, par contre, c'est peut-être un peu con de montrer la vidéo maintenant, parce qu'à mon avis, t'as beau ne pas utiliser les assets de Nintendo, tu utilises la propriété intellectuelle de Nintendo, et en général Nintendo, leur propriété intellectuelle, ils sont, comment dire, assez extrémistes. Bon, sinon, franchement, c'est impressionnant.
Enfin, ce qu'il ah ouais, a c'est, déjà, c'est incroyable. Non, mais de toute façon, après, c'est impressionnant déjà dans un premier temps. Ensuite, c'est selon il y a sa stratégie. Donc, si c'est vraiment de partager le truc et de le faire, bah, ça m'a l'air d'être une mauvaise. Et si après, c'est un CV, bah là, du coup, c'est hyper classe parce qu'il fait parler de lui.
Oui, parce qu'il faut bien voir qu'il y a beaucoup de gars, en fait, qui savent très bien qu'ils finiront jamais le projet et qui voilà, montent leur projet pour faire monter le buzz. Ce qui est très bien, moi, je trouve.
Ah, ben ouais, totalement.
Voilà.
C'est la jurisprudence Sonic Mania, finalement.
Tout à fait.
C'est ça.
Sonic Mania, qui était des développeurs amateurs, entre guillemets, et un jour, Sega a fait « Bon, écoutez, nous, les anciens Sonic, on sait plus faire. Est-ce que vous pourriez en faire un ?» Et voilà, quoi. Résultat, d'excellentes factures. Ça donne envie.
Et puis, pourquoi pas une success story ? Il se fait engager pour travailler sur Metroid Prime 4.
Bah oui, sachant que ça a été en plus annoncé, Metroid Prime 4, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le mauvais moment.
Donc voilà. On verra.
Alors, rien à ajouter, messieurs ?
Non.
On va passer à la suite et on va maintenant évoquer Nintendo, Dwayne.
Tout à fait, donc Nintendo qui a donc fait son direct, bon, qui était plutôt ennuyeux à mon avis. Et on a eu plus d'infos ensuite par rapport au cloud, donc c'est-à-dire le point précis pour lequel beaucoup de gamers vont souscrire en fait au service en ligne. C'est surtout pour les sauvegardes dans le cloud, parce qu'aujourd'hui, en fait, bah, on a nos sauvegardes sur la Switch. Si la Switch, elle tombe ou elle fonctionne plus, bah, mes sauvegardes, elles sont perdues. Et donc, tout le monde était ravi d'avoir ces sauvegardes dans le cloud. Sauf qu'il y a une info qui est tombée, c'est-à-dire que si ton compte, je donne un exemple très banal qui peut arriver à tout le monde, tu fais opposition sur ta carte, le compte Nintendo il se renouvelle pas, et ben à ce moment-là tes sauvegardes tu les as dans le baba quoi. Donc ça c'est un énorme défaut, donc je pense que c'est un défaut technique. Et derrière ça, il y a également une info qui était tombée comme quoi tous les jeux seraient pas forcément compatibles. Donc là, c'est un peu différent. C'est les développeurs qui pourront choisir par rapport à la triche de ce qui a été expliqué de refuser les sauvegardes dans le cloud. Donc en tout cas, c'est pas un très bon début pour ce service-là. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, contraignant, et sur lequel il va être difficile de communiquer. Donc, il y aura, c'est sûr, énormément de problèmes par rapport à ça, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un peu couillon, cette histoire de cloud conditionné au fait que tu payes. Même si, bon, évidemment, je peux comprendre pourquoi ils font ça. Leur Switch Online étant relativement peu attractif à l'heure actuelle. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que Ubisoft au Japon va tester un truc dans le cloud, encore une fois. C'est une version Switch Cloud d'Assassin's Creed Odyssey. Et ça, c'est relativement intéressant parce que si ça fonctionne techniquement et commercialement, bien sûr, ça pourrait être amené à se démocratiser plus tard, ailleurs qu'au Japon. Donc ça peut être aussi assez intéressant à surveiller. Alors, l'offre est assez nauséabonde à mon goût parce que en fait tu payes 64 €, donc l'équivalent de 64 € évidemment, hein, en yens, pour ta version, sauf que ta version, tu l'as dans le cloud, tu peux y accéder dans le cloud pendant 2 ans uniquement. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu gonflé quand même.
Alors, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit 1000 fois ici, hein, à savoir que je trouve cette idée totalement déraisonnable d'un point de vue technique. Surtout que par-dessus le marché, enfin vous voyez bien le titre qu'on vous propose, là c'est pas très intéressant pour nous, hein, je pense pas qu'on y sera gagnant au final. Bon, ça plus le fait qu'honnêtement, comment dire, alors certes tu pourras jouer à Assassin's Creed Odyssey sur ta Switch, mais est-ce que tu perds pas un peu du coup, parce que du coup tu perds la portabilité de la Switch, on va dire.
Oui.
En gros, c'est bien si tu veux absolument jouer à Assassin's Creed Odyssey et que t'as pas de PS4, quoi, on va dire, ou de Xbox One ou de PC, tu vois. Mais pour les autres, on va dire, je suis pas convaincu de l'intérêt, quoi. Parce que pour moi, l'intérêt de la Switch, c'est vraiment le côté, je prends ma console en portable et je vais jouer n'importe où, quoi. Et pour le coup, le cloud, quand t'es dans la rue, c'est compliqué.
Ouais, je suis d'accord.
Et aussi, juste pour revenir une seconde sur Nintendo, alors. Je vais pas tirer sur l'ambulance, hein. Je veux dire, la news parle d'elle-même. Comme d'habitude, Nintendo est incapable de faire les choses proprement quand il s'agit de proposer un service en ligne digne de ce nom. Je voulais quand même ajouter une chose, puisque on nous a accusé, n'est-ce pas, de ne pas dire assez bien de Steam. Je tiens à souligner que quand même sur Steam, les sauvegardes dans le cloud, ça marche bien. Et c'est gratuit. Voilà, une petite news pour compenser, n'est-ce pas,
hein. Et sans payer.
Voilà. Ça va, c'est suffisant. On a dit assez bien de Steam cette semaine. Ou... Voilà. Okay.
Allez, next.
Bon, on va évoquer Rocket League, Morgan.
Ouais.
Un jeu qu'on aime beaucoup.
Ouais.
J'ai appris une nouvelle, moi, cette semaine, j'étais pas au courant. C'est qu'apparemment, il y a une feature qui a été reportée, et c'est une feature qui m'intéresse potentiellement, ça s'appelle le Rocket ID. Qu'est-ce que c'est le Rocket ID? C'est tout simplement un ID interne à Rocket League qui va vous permettre d'ajouter à votre groupe vos potes qui sont sur d'autres plateformes. Parce que actuellement sur Rocket League, comment ça marche? Vous pouvez jouer avec des joueurs d'autres plateformes, le problème étant que vous ne pouvez pas créer de groupe avec eux. Donc, en gros, si vous avez un pote, vous pourrez jamais créer une équipe avec lui, quoi. Votre pote, il pourra jouer peut-être éventuellement, si vous avez énormément de bol, vous tomberez sur le même match que lui, quoi. Mais vous pouvez pas créer de groupe avec votre pote qui est sur une autre plateforme. Et donc, ils ont pour but de créer un Rocket ID qui va vous permettre d'inviter vos potes, qu'ils soient sur PlayStation, Xbox, etc., et de jouer ensemble, tout simplement. Moi, je savais pas que cette feature était prévue cette semaine. J'ai appris ça. Malheureusement, ça a été reporté. When it's done, hein, comme dirait l'autre.
Oui, c'est ça.
Vivement, Morgan, parce que moi, j'aimerais bien jouer avec Ben, notamment.
Oui, carrément, carrément. Je suppose que ça ne saurait tarder, mais effectivement, c'était prévu pour septembre. Bon, ça sera pas pour septembre. On va attendre un petit peu. C'est vrai que ça fait un moment qu'on attend. Un mois de plus, 2 mois de plus, qu'est-ce que c'est?
Mais ça serait pas un peu à cause de Sony, tout ça?
TH, il aime bien aborder les vrais sujets. Parce que, ah oui, autre chose. On nous a accusé de dire trop de bien de Sony, visiblement, dans les derniers commentaires de l'émission. Oui,
sérieux?
Oui, apparemment, Sony, on est trop sympa avec eux.
Mais putain.
Vous êtes défendu.
Vous voulez qu'on parle de Sony, il n'y a pas de problème. Il y a un sujet. Quand j'ai vu cette news sur Rocket League, en fait, ça m'a rappelé ça. Parce que j'avais complètement oublié cette histoire. Ce sujet, c'est Sony qui fait de la merde. À savoir que, vous le savez, moi je les aime bien en Challenger, mais quand ils sont ultra dominants, comme c'est le cas actuellement, en général ça devient chiant. On se rappelle de la PlayStation 3, où ils ont fait une console de merde, impossible à programmer, et ils se sont dit, c'est pas grave, de toute façon, nous c'est Sony, et vous allez faire comme on dit, hein, n'est-ce pas? Et puis la puissance de l'Emotion Engine, tout ça, voilà.
Le moteur
préféré
des
Sony, cette génération, alors autant ils font des jeux cool, tu vois, autant par contre, leur politique vis-à-vis du cross-platform, sous prétexte qui sont ultra dominants sur le marché, ça commence à bien faire, hein, n'est-ce pas, Morgan?
Ouais, c'est le boss, en fait, de Sony, Kenichiro Yoshida, qui a parlé, lors d'un de ses déplacements à l'IFA, à Berlin, de sa position sur le cross-platform. Et on sait que la position de Sony sur le cross-platform est assez... Bon, peu recommandable, on va dire.
Discutable, on va dire.
Ouais, c'est vrai que c'est pas génial. Et en fait, il persiste et il signe. Notamment au sujet de Fortnite, hein, puisque c'est évidemment le jeu du moment à ce sujet-là. Il est tout à fait conscient que c'est chiant de pas pouvoir faire de cross-platform sur Fortnite. Mais c'est pas grave puisque, selon lui, en réalité, l'expérience sur PS4, c'est la meilleure expérience de Fortnite. Du coup, bah c'est pas grave, venez sur PS4. Donc c'est assez, bon.
Il soude Nadial, en fait.
Ouais, c'est assez trollesque, hein, comme position. Clairement. Parce que.
C'est, arrogant, surtout. Enfin, ouais. C'est, l'arrogance de Sony, en fait. Mais voilà, enfin. Vous savez, quand on parlait, à chaque E3, je me rappelle, on est là sur la conférence Microsoft. Et à chaque fois, on dit, bon, Microsoft, t'as fait de la merde, mais on s'en réjouit pas parce que un Microsoft qui va mal, c'est un Sony qui va trop bien. Et ça va poser des problèmes parce que quand Sony va trop bien, il se sent plus puissé en général.
C'est vrai, mais là, c'est
exactement
ça. Vous voyez,
c'est exactement ça. C'est le Sony dont je parle, c'est le Sony qui est ultra dominateur sur le marché et qui, petit à petit, commence à prendre ses aises, tu vois, et qui prend des décisions totalement débiles et qui prend les gens pour des cons en plus quand il fait ça.
Ouais.
Moi, les gars, je suis pas sûr que vous allez être gagnant de faire ce genre de blague, surtout sur un jeu aussi populaire que Fortnite. Mmh. Parce que, ah oui, là encore, ça, c'est la partie sympa du de la news. Hein. Je rappelle quand même, pour ceux qui seraient pas au courant, que les joueurs de Fortnite qui ont activé leur compte sur PS4 ont exporté leur compte sur PS4 et ne peuvent plus jouer sur PC, par exemple.
C'est ça.
Je sais pas si vous êtes au courant.
Mais ça, c'est scandaleux.
Et ça, par contre, c'est un pur scandale. Et ouais. C'est du foutage de gueule puissance 3 milliards.
C'est une prise d'otage, quoi.
Ouais, c'est une prise d'otage. C'est bah voilà, de toute façon, t'es sur PS4. PS4, c'est la meilleure expérience, un connard, et tu vas rester chez nous, hein. Mmh. C'est comme ça. C'est pas acceptable, quoi. Mmh. Je suis désolé. Il faut que chez Sony, ils arrêtent leur délire là. Et surtout, Sony, faites attention parce que Fortnite, c'est pas un petit jeu, quoi. Enfin, vous avez choisi en plus le pire jeu pour faire ça.
C'est vrai.
Mais apparemment, ça pourrait changer peut-être dans les jours à venir. Mais enfin, là, ce que je dis, c'est que des rumeurs pour l'instant. Il y a eu des déclarations, on va dire, en off, qui ont été faites par les PDG de Rockstar. Apparemment, le premier jeu qui autoriserait le cross-platform, ça serait peut-être Red Dead Redemption 2. On sait que Red Dead Redemption 2, en fait, c'est un gros partenariat pour Sony ou pour Microsoft. On sait que Sony, ils ont la campagne marketing pour Red Dead Redemption 2. Et apparemment, d'après les déclarations des PDG, ils voudraient faire du cross-platform. Et franchement, il y a Rockstar qui vient, qui dit on veut faire du cross-platform avec les autres consoles. Même Sony, je pense pas qu'ils peuvent dire Rockstar, non, on veut pas travailler avec vous, tu vois.
J'avoue.
Et il y a pas que Rockstar, il y a aussi Bethesda qui a dit, écoutez, nous on a Fallout 76, qu'on va le sortir bientôt, là.
Ouais.
Vous êtes gentils, nous on veut du cross-platform.
Et c'est un vrai enjeu pour les éditeurs et les développeurs qui font beaucoup de en ligne.
Ah, surtout à l'heure du jeu à service.
Exactement, à l'heure des jeux à service qui sont peut-être un peu en deçà. Sur leur population de joueurs, c'est hyper compliqué, en plus d'avoir des populations de joueurs qui sont fragmentées en trois parties. Une sur PC, une sur Xbox One, une sur PS4, et je te parle même pas une sur Switch, s'il y a. Entre la vie et la mort pour un jeu à service, il peut y avoir justement le cross-platform.
Bah, d'ailleurs, vous vous rendez compte que Nintendo est plus open que Sony sur le cross-platform. Ouais,
c'est ouf.
Non, mais c'est complètement fou, mais en tout cas, c'est vrai que Sony, comme tu l'as dit, quand ils sont en position de leader, c'est un peu les rois du monde. On se rappelle tous du prix scandaleux de la PlayStation 3 qui était à 700€. Après, ils l'ont payé. Ils sortaient de la PlayStation 2. La PlayStation 2, c'est 150 millions de consoles dans le monde. Alors que la PlayStation 3, c'est 80 millions. Je pense qu'au début de la PlayStation 4, ils ont bien compris le truc avec... on se souvient tous de la conférence mythique avec Microsoft quand ils les ont trollés et tout ça.
Ouais, genre, on est les amis des joueurs, etc.
Voilà.
Vous voyez, nous, on vous autorise à prêter vos jeux, etc. Enfin, voilà.
Et en fait, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Parce que aujourd'hui, Sony, ils sont complètement dans une situation qui sont totalement arrogantes, méprisants vis-à-vis de la communauté Xbox, vis-à-vis de la communauté PC et la communauté Switch, je t'en parle même pas.
Mais même vis-à-vis de leur propre communauté. Enfin, je suis joueur PS4 également. Alors, même si je vous avoue que personnellement, jamais je paierai pour jouer en ligne chez Sony. Hein. Soyons clairs, faut pas déconner non plus. Mais imaginons, je suis joueur PS4. Je veux jouer avec un pote qui est sur PC. Je peux pas parce que Sony a décidé que non. Et après, Sony ose venir me dire que la PS4, c'est la meilleure expérience. Mais non, c'est la pire, mec. C'est la pire, ton expérience. Parce que je peux pas jouer avec mes potes à cause de toi, en fait. Parce que mes potes, ils sont pas tous sur PS4, hein. On n'a pas tous des PS4, des machins. Faut réaliser ça à un moment donné. On n'est pas mariés avec Sony, hein.
Mais c'est vrai que Sony, tu vois, quand ils font ça, tu te dis que pour les prochaines générations de consoles, si Microsoft, ils se relèvent, ils proposent des vraies exclus plus puissantes et que tu pourras jouer avec tes potes sur PC, par exemple au prochain Halo ou bien un autre jeu qui a pas été annoncé, ou même avec des gens sur Nintendo Switch pour les jeux tiers, je pense que c'est un truc qui pourrait faire changer les gens de Cambry et que Sony, en fait, il va s'en mordre les doigts au final. Fortnite, c'est un jeu qui aujourd'hui, qu'on aime ou pas, on peut pas dire qu'il pèse pas dans la balance. Moi, je commencerais à être sympa avec les mecs de Fortnite, tu vois. Enfin, il y a pas plus tard que 5-6 jours, j'étais dans une grande surface et tout, je regardais dans le rayon d'occasion. Et je voyais des mecs qui connaissaient pas trop le jeu vidéo, qui voulaient acheter une console pour son petit frère. Ils parlaient que de Fortnite avec le vendeur. Et tous les enfants étaient là pour acheter des cartes PSN aussi auprès du vendeur. Mais c'était des cartes soit pour faire des DLC sur GTA Online, tu vois. Ou bien dans Fortnite pour acheter des skins et tout ça. Et là, quand je me suis dit ça, j'ai fait putain, en fait, moi, je suis complètement dans un autre monde, tu vois, avec moi, avec mes jeux solo.
Ouais, bien sûr.
Pire, les jeux indépendants. Oh, mon dieu. C'est là que tu te rends compte qu'on est vraiment isolé. Hein. C'est...
Ouais, je suis le chétan du, j'étais pas le bienvenu dans le magasin.
Donc voilà, on espère que ça va un peu évoluer tout ça, parce que ça n'est absolument pas dans l'intérêt du joueur, en tout cas, on n'est pas dupe, n'est-ce pas?
Et puis on attend aussi de voir l'évolution de, parce que Bethesda aussi a mis un peu la pression par rapport à Fallout 76, et ça sera intéressant de voir aussi le développement par rapport à ça, parce que là, Pete Hines, Todd Howard, tout ça, sont montés au créneau pour dire, ouais, attention Sony, nous, c'est non négociable. Donc après, évidemment, l'écart de puissance entre les deux est énorme, mais ça sera intéressant de voir aussi ce
bras de fer-là. Oui, mais tu imagines si tout le monde fait, ce que ça va donner. Tout le monde demain décide de se retourner contre Sony.
Oui, oui, voilà,
c'est ça. Parce que moi, je pense que un autre qui peut peser lourd, mais est très lourd dans la balance, ça serait Electronic Arts avec FIFA. On sait que le mode Ultimate Team, c'est un truc qui brasse énormément d'argent. Là, je pense que Sony, ils vont se retrouver un peu tout seuls, tu vois.
Ça serait triste de se faire sauver par FIFA Ultimate Team.
Ah oui, d'ailleurs, ce petit trolluné au passage, juste pour ceux qui seraient pas au courant, Electronic Arts est sous le coup d'une enquête judiciaire en Belgique parce qu'il refuse de retirer les lootbox dans Ultimate Team.
De mieux en mieux.
Et ils veulent que vous écriviez à vos députés pour que les lootbox soient acceptés.
Alors, c'est pas Electronic Arts, hein, c'est Touquet, par contre.
Ouais, mais bon, c'est le même genre d'escroquerie, quoi.
Allez. On va passer, alors là, ATH, je pense qu'il va avoir beaucoup de choses à dire, à Project Judge. Project Judge, alors c'est, entre guillemets, le nouvel épisode de la série Yakuza. Je rappelle que Yakuza, chez les japonais, c'est Ryuga Gotoku. Hein. À mon avis, ça s'appellera pas Yakuza chez nous, cet épisode-là.
Non, mais de toute façon, ils veulent faire une autre licence. Donc, hein.
Bah, c'était plus ou moins un reboot et il y aura des personnages de Yakuza, j'ai l'impression.
Ah, ouais, ouais.
Donc, voilà. Et on va dire que c'est un spin-off.
Ouais, un spin-off, mais qui veut tenter autre chose, en fait, avec plus, on va dire, de côté enquête.
Ouais, que dans Yakuza. Voilà. Parce que, en gros, pour vous expliquer, vous allez jouer un avocat déchu, on va dire. Alors, pourquoi un avocat déchu? Parce qu'il se trouve que votre personnage est un ancien avocat du barreau qui a défendu un meurtrier. Apparemment, c'était un cas perdu d'avance et miraculeusement, il a réussi à le faire acquitter. Et là, patatras, le lendemain où le mec est libéré, il assassine sa nana. Et donc forcément, ce genre d'événement, ça crée des bouleversements dans la vie d'un homme. Il a quitté le métier d'avocat pour devenir enquêteur. Et plusieurs années plus tard, il se rend compte qu'il y a une série de meurtres qui est en train d'arriver. Et là, le doute l'habite, comme dirait l'autre. Ces meurtres, ça lui rappelle vachement... le cas du meurtre de la nana du client qu'il avait défendu, qui pensait qu'il était coupable finalement, tu vois. Et il se dit, putain, mais si ça se trouve, en fait, il était innocent. Et là, démarre notre histoire. Donc déjà, moi, le pitch, j'aime beaucoup. Parce que ça a l'air d'être un personnage qui est assez travaillé par son passé, quoi, on va dire. Et ensuite, bon, là, ça, c'est les qualités des Yakuza, les mises en scène, elle a l'air absolument grandiose. Et enfin, pour terminer, un Yakuza avec de l'enquête dedans, moi, je dis pas non, n'est-ce pas, TH?
Exactement. Et donc, il y a une très grande affiliation avec la série Yakuza, parce qu'il faut savoir que, certes, on est avocat, mais Yakuza, c'est quand même avant tout de la castagne. Donc, cette partie-là du jeu, elle reste, et puis elle rappelle très grandement, en fait, ce qui a fait le succès de la série Yakuza, c'est-à-dire un beat'em all en 3D, avec des décors magnifiques. Enfin, c'est surtout les visages, en fait, qui sont très bien faits dans les Yakuza, en général.
Ah, ça a une autre gueule que Shenmue 3.
Ah, le petit troll.
Bim!
Au passage. Le mec qui prête ses traits de visage au personnage principal, c'est apparemment un ancien membre de boys band japonais qui a duré plus de 30 ans au Japon, qui a eu un succès monstre. C'est quelqu'un de très connu là-bas et en général, dans la série Yakuza aussi, c'est des acteurs célèbres japonais qui sont inscrits dans leur jeu. Et là, il y a une grande affiliation avec la série, parce que comme j'ai dit, il y aura toujours ce côté beat them all, mais sauf que là, ils veulent vraiment aller un peu plus loin et faire une enquête, mais ça va pas être du Phoenix Wright, c'est-à-dire ça va être une enquête en temps réel, entre guillemets, où on va devoir faire des filatures dans la ville.
Il y a aussi des idées de gameplay que je trouve intéressantes, par exemple, quand tu fais une filature, tu dois prendre des photos pour prendre en flagrant délit, par exemple, un mec en train de faire un adultère, tu vois. Et en fonction du moment où tu vas prendre la photo, tu n'auras pas le même résultat, si tu veux, dans ton enquête. C'est ça. Il faut que tu prennes la photo pile poil au moment, par exemple, où il est très intime avec la nana, tu vois. Ou... Si tu les prends en photo juste au moment où ils sont côte à côte, c'est pas une preuve. Mais par contre, si t'attends le moment où il pose la main sur son épaule, t'auras plus de grains à moudre, on va dire, quand tu vas confronter ton suspect.
C'est le Pokémon Snap du crime.
Voilà, exactement.
C'est très bien résumé. Mais par contre, je sais pas si t'as vu la démo où quelqu'un joue, et moi je trouve qu'il y a quand même un effet très dérangeant dans le jeu là.
Les animations sont un peu raides en fait, je trouve.
Ouais, non, c'est même pas que les animations, c'est-à-dire qu'en fait le jeu est quand même très beau, et il y a cet effet où tu te dis, le jeu est très beau, les personnages sont très réalistes, mais on dirait quand même que c'est des robots, et ils ont des comportements de jeux vidéo, tu vois, ils ont pas des comportements humains crédibles. Et du coup, t'as cet Uncanny Valley qui apparaît.
Alors moi, j'irais pas jusqu'à parler d'Uncanny Valley, parce que tu sais, j'ai pas senti de malaise. Par contre, très clairement, ça me sort du jeu, quoi.
Franchement, j'ai un grand malaise quand le mec, il se retourne, quand il est en train de le suivre, il te voit courir pour aller te cacher derrière un abri où il y a un truc bleu qui clignote, il faut absolument que tu te caches là. Il est là, il a une animation un peu comme tu parlais tout à l'heure de Pokémon Snap. Alors que là, c'est vachement réaliste, c'est vachement beau, et du coup, ça me dérange. Mais bon, après, c'est Yakuza, c'est connu aussi pour sa qualité d'écriture, sa narration qui est très mise en avant, parce qu'on a vraiment affaire à des films noirs de Yakuza japonais. Je pense que ça peut être intéressant avec ce côté justement avocat.
Bah déjà, allez regarder le trailer histoire, franchement, moi, ils m'ont vendu. Hein. Chouette, hein. Si vous faites un film là-dessus, déjà, rien que ça, ça m'intéresse, tu vois. La mise en scène, c'est ouf, quoi. Enfin,
on espère, s'il vous plaît, Seiya, sortez le jeu en Europe, déjà.
Bah, c'est sûr.
C'est
écrit,
hein.
Ils vont le sortir en Europe, et en plus, les vidéos dont je parle, c'est le compte YouTube de Sega Europe qui les a publiées, donc...
Mais il y a écrit « Coming soon to the West », donc clairement, ça arrive.
Oh non, mais sortez-le en Europe, mais traduit, s'il vous plaît.
Ah oui, alors ça par contre c'est une autre paire de manches.
Donnez la chance à vos jeux qui ont des qualités de pouvoir se vendre un peu plus, parce que les Yakuza...
Bah, surtout les jeux comme ça qui marchent sur l'écriture en fait.
Ouais.
Un jeu purement gameplay, je dirais, ouais bon, ok d'accord, on s'en fout, tu vois. Mais un jeu où l'histoire est aussi importante, où la mise en scène est aussi importante, faites un effort sur la trad. Moi je m'en fous, tu vois, mais moi je dis ça pour vous.
Mais moi
quoi,
je veux même
fait,
pas que les voix soient doublées en fait. Hein. Si possible, ne sortez même pas les voix anglaises, sortez-nous les voix japonaises avec une traduction des textes en français, ça serait parfait. Après, tu vois, je me souviens que Yakuza, premier du nom, en Europe, quand il est sorti sur PlayStation 2, moi je l'avais acheté, le jeu était traduit en français. Sauf que Sega n'avait fait aucune communication là-dessus. Alors que le jeu était...
Et ça, c'est toujours le problème de Sega. Voilà. C'est à chaque fois qu'ils ont mis des moyens dans les trades ou des trucs comme ça, derrière, ils font aucune pub pour les jeux. Enfin, c'est assez dramatique, quoi.
Voilà. Et, s'il vous plaît, Sega, donnez-vous la chance de faire des bons jeux et de revenir sur le devant de la scène. Enfin, Sega, pour le grand public, c'est mort, Sega. Sega, c'était les années 90 et tout. Alors que pourtant, ils font des trucs encore chouettes aujourd'hui. Et c'est dommage, quoi.
Disons que Sega, maintenant, c'est devenu un éditeur de niche qui fait des jeux super cool sur PC, quoi.
Ouais. Dommage.
C'est, voilà. Bon, bah pour le coup, c'est terminé pour l'actualité cette semaine. On va passer à la discussion de la semaine.
Ouais.
Alors, Morren, je crois que chez Gamekult, ils ont fait du gros changement cette semaine.
Grand chambardement chez Gamekult. Depuis le 13 septembre, le site internet, donc qui me semble d'ailleurs être le deuxième site internet jeux vidéo français, après JVC, il me semble, a choisi de remanier son offre premium. Si vous savez que l'offre premium lancée il y a 3 ans chez GK vous proposait des articles de fond, des émissions, des contenus donc plus fouillés sur la base d'un abonnement. L'annonce a été faite de passer, pas l'intégralité, mais une grande partie du site derrière un paywall. Les brèves et les news resteront accessible et la plupart des tests également.
C'est assez flou quand même, hein, je tiens à le dire.
Ça reste relativement flou. Enfin, c'est expliqué comme quoi les contenus qui n'existeraient pas hors premium seront tous derrière le paywall. Ça incorpore désormais donc Gamekult l'émission. Le contenu vidéo sera désormais accessible uniquement aux abonnés. Le contenu en revanche audio, puisqu'il est disponible en mobilité sur podcast, sera toujours gratos. Un certain nombre de tests aussi, des tests import par exemple, seront derrière le paywall.
Non, parce que Tomb Raider, excuse-moi Morgan, mais oui. Tomb Raider, là, j'ai vu qu'il était en accès fermé, quoi. Enfin, tu peux pas le lire comme ça, quoi.
Le test de Tomb Raider?
Non, c'est un autre jeu, c'est, excuse-moi, c'était pas Tomb Raider, c'était Immortal Unchained, et j'ai essayé de le lire pour voir, et c'était payant, quoi.
Ok.
Mais parce qu'à mon avis, ils considèrent Immortal Unchained comme un jeu niche, donc oui, du coup, moi ce que j'ai compris en gros, c'est que les jeux niche, comme ça coûte de l'argent de mettre des gens dessus et que c'est pas forcément rentable, on les met derrière le paywall et en gros, les triple A, ça sera en accès libre, quoi.
Voilà, c'est ça. Juste pour info, il y a désormais la possibilité de payer à l'article et sans compte Gamekult. C'est quelque chose qui avait été pas mal demandé et qui n'existait pas jusqu'ici. Donc ça va varier entre 50 centimes et 1,50€ l'article ou l'émission. Et donc vous payez via votre forfait téléphonique, c'est-à-dire que vous rentrez votre fournisseur de téléphone qui va ensuite retrancher le prix de l'article sur votre facture du mois. Donc c'est comme ça que ça marche, et évidemment les abonnements mensuels, annuels sont toujours présents, savoir que c'est 3,33€ par mois si tu prends la formule 1 an et 2,50€ par mois si tu prends la formule 2 ans. Voilà, maintenant on va probablement parler des effets de ce gros changement, puisque c'est pas rien, hein, c'est très couillu hein, comme stratégie. Est-ce que déjà vous trouvez l'intention louable? Est-ce que vous trouvez que c'est peut-être pas forcément bien mis en place sur le site? Qu'est-ce que vous pensez de ce grand chambardement chez GK?
Moi, dans un premier temps, je trouve ça effectivement, comme vous l'avez dit, couillu. Il y a plusieurs niveaux d'un point de vue purement com et puis dans l'idée générale, c'est pas quelque chose que je trouve intelligent dans le sens où par exemple, on va avoir Gamekult l'émission, donc je comprends que l'émission rapporte pas énormément. Enfin, je prends vraiment cet exemple là précis qui est intéressant dans le sens où voilà, c'était une émission vitrine. Bon, tu vas avoir le gamin de 15 ans ou des gens comme nous qui peuvent la regarder et derrière dire ah oui, pourquoi pas passer sur Gamekult et en payant. Donc ça, ils se coupent déjà de cette com là parce qu'ils font passer l'émission derrière un paywall. Après, il y a aussi l'effet enfin, le fait de dire qu'il y a certains tests et autres qui vont passer, bah, là aussi, la valeur ajoutée de Gamekult, bah, tu n'auras aucun effet en gratuit et tu seras obligé de payer, donc peut-être 1 ou 2€, comme ils l'ont dit, tu peux passer par SMS ou autre. Donc moi, je trouve que d'un point de vue com, c'est mauvais. Après, je peux le comprendre, mais pour moi, effectivement, il va y avoir un énorme problème, au niveau marketing, com, et puis dans l'idée générale, voilà, je trouve pas que ce soit une bonne situation, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Dwayne. Surtout que, en fait, Gamekult, l'offre premium existe depuis pas mal de temps. Au tout début, quand l'offre premium est arrivée, je me suis dit, c'est cool d'avoir du contenu qui serait plus travaillé que les autres et que les gens paieraient pour avoir. Et au début, en fait, quand ils ont commencé à annoncer premium, moi, je me suis inscrit et il y avait des trucs assez chouettes qui sortaient.
Les comptes de Monsieur le Maire, notamment, ce genre de choses.
Quelques mois après, peut-être, 5-6 mois après, le contenu a commencé à se dégrader, devenir de moins en moins présent. Ils ont attendu la saison d'après pour faire venir quelqu'un qui était avant sur JV.fr, qui s'appelle Virgile, qui faisait l'émission Virgile, mais correct. Voilà, comme j'étais plus premium, je savais pas si l'émission valait le coup et tout ça. Et Thierry m'avait filé un lien pour que je regarde l'émission et pour voir si ça m'intéressait. Et du coup, j'avais trouvé la chronique superbe et tout. Il abordait vraiment le jeu vidéo d'un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les médias mainstream. Et c'était super. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un abonnement premium. Mais au fil du temps, l'émission se faisait de plus en plus rare. 24 FPS, c'est pareil. Et là, tu te dis, en fait, tu vas payer pour avoir le droit à ce que tu avais avant gratuitement, surtout si c'est pour avoir des tests que tu peux avoir partout, et qui eux resteront apparemment accessibles, et encore on sait pas trop parce
et
que...
Et qui ont pas de valeur ajoutée.
C'est
pas,
ça.
Je veux pas critiquer forcément la qualité du travail qui est produit, mais le truc c'est que des gens qui font des tests gratos, et je parle pas forcément de journalistes, il y en a plein, et des bons tests. Pour moi, Gamekult, c'est une source d'information parmi d'autres. Et les tests, je suis désolé, il y a plein de gens dont c'est pas le métier qui font des très bonnes critiques, et qui sont très informatifs aussi. Donc j'ai pas besoin de Gamekult, j'ai pas besoin de payer en fait pour avoir des tests, des critiques de qualité. Désolé. Et ensuite, il y a un autre point. Je suis un peu d'accord avec toi, TH. Moi, je suis dans la position là. Ça fait un moment que j'ai pris un abo de 2 ans, tu vois.
Ouais.
Parce que moi, par contre, j'ai une émission que j'adorais, c'est Indevwiz. Rien que pour celle-là, tu vois, je serais prêt à payer 2,50€ par mois. Il y a aucun souci. Parce que je trouve ça passionnant, tu vois, d'écouter des développeurs qui te racontent leur parcours, etc. Enfin, j'adorais ça. Mais depuis, je suis désolé, mais depuis que Boule à Poire est parti, c'était une émission qui était très régulière, il y en a quasiment plus. Et pareil, regarde les comptes de Monsieur le Maire. Par contre, ça, c'est le début, hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus ça.
Ouais.
Mais les comptes de Monsieur le Maire, moi, rien que pour ça, j'étais prépayé aussi 2,50€ par mois. Et voilà, enfin, pour moi, il y a une baisse du nombre de contenus, en fait. Alors, ça peut être un choix éditorial, tu vois, sauf que je sais pas si je serais prêt à payer pour le contenu que fournit Gamecult actuellement. Mais bon, ça, à la limite, tu vois, là, c'est mes griefs personnels, on va dire, avec Gamecult. Là où je pense qu'il y a un vrai problème, et là, je pense que c'est beaucoup plus objectif, on va dire, c'est le côté forçage du truc, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est fait de manière totalement à l'arrache, quoi. Déjà, on arrive, on te dit du jour au lendemain, ok, d'accord, à partir d'aujourd'hui, c'est payant. Merci, des bisous.
Grave.
Il aurait peut-être fallu quand même essayer de faire ça de manière un peu plus pédagogique, non? Enfin, parce que c'est quand même un gros changement. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, faire payer du contenu sur Internet comme ça. Encore une fois, j'y suis pas hostile, mais il faut faire ça de manière un peu, avec un peu de tact, quoi.
Ah oui, non, mais enfin, ça,
les
c'est
gens, ils ont pas l'habitude, tu
comme
vois.
Comme on dit, ils ont renversé la table de thé, mais d'un coup. Par exemple, la semaine dernière, il y avait l'émission de Gamecult qui était encore visible gratuitement. Et je l'ai regardé, ils ont dit, il y aura des changements, mais sans plus. Vu que c'était la dernière émission, on va dire, accessible à tous. Ils auraient pu commencer à parler à ce moment-là et dire voilà les changements qu'il va avoir, il va se passer ça, il va se passer ci, puis dans un mois, voilà, il y aura ça. En fait, ça, Gamecube, ça va changer, hop, ils le balancent comme ça. Enfin, moi, j'étais même pas au courant, c'est quand j'ai voulu lire le test de dont je parlais tout à l'heure, j'ai vu que voilà, il fallait payer tout ça, mais je me suis dit, bah attends, c'est quoi ce délire? Puis après, quand je t'ai eu au téléphone, Tyrone, tu m'as dit, ouais, t'as vu Gamecube que ça a changé tout ça? Et au début, j'avais pas tilté, tu vois. Je me suis dit, attends, mais c'est en fait.
Il y a un bug.
Voilà, c'est un bug. Au début, quand j'ai voulu lire l'article, je pensais que, tu vois, c'était genre, des fois, ça arrive que, voilà, il y a des petites erreurs sur la page, et du coup, il l'avait mis en contenu premium, alors que c'est un contenu classique. Mais là, le problème, c'est que je suis arrivé comme ça, du jour au lendemain, en fait, le Gamecult me dit, vous êtes plus le bienvenu, en fait, parce que tu payes pas. Mais là, le problème, c'est que vous m'apportez pas un contenu suffisamment développé qui pourrait m'intéresser, et
Après, encore une fois, TH, ça, c'est subjectif. Toi et moi, on a des griefs vis-à-vis du premium actuellement, mais je trouve pas déconnant non plus qu'ils disent « Bah écoutez, nous, on estime qu'on produit le contenu de la qualité d'un magazine et on veut le faire payer. » Yukishiro l'explique bien après, je trouve, par contre. C'est juste que ça, tu vois, il aurait fallu le faire il y a un mois, expliquer que « Écoutez, la pub, ça rapporte plus. Actuellement, les salaires de la rédac sont payés par le premium. Donc maintenant, on va tout passer en premium à cause de ça. » Mais par contre, ça, tu le fais il y a un mois, tu expliques la démarche aux gens, et un mois après avoir bien fait ton travail de pédagogie, etc., tu passes les articles en payant, et par contre, ce que tu ne fais pas, et ça aussi c'est un autre point qui me pose problème, c'est quand tu arrives sur les articles, tu te mets pas une putain de bannière en plein milieu de l'écran, avec marqué « cet article vous est offert par les premiums », avec la bannière qui te suit en plus. Moi, ça me faisait penser un peu à la mise à jour de Windows 10, tu vois. C'est-à-dire Windows 10 qui dit « Eh, au fait, eh copain, tu veux m'installer, hein, je suis Windows 10, tu veux m'installer ?» Et là, c'est un peu pareil, c'est « Eh copain, tu veux payer, hein, tu veux payer ?» Mec, ça t'a été offert par les premiums, tu veux payer? Eh mec, faudrait payer quand même là. Et je vous assure que même en étant premium, moi par exemple, ça m'arrive d'aller sur Gamecult et de pas être connecté, et j'ai quand même envie de lire mes articles, tu vois.
Bien sûr.
Et là, je me retrouve avec une, je sais pas si vous imaginez, cette putain de bannière sur un laptop, avec un petit écran, tu vois. Et là, t'es là, mais c'est quoi cette merde? C'est horrible pour la lecture, et en plus, ça donne pas envie de donner de l'argent. Et enfin, il y a un dernier point que je voudrais aborder. Et là, c'est plus un point philosophique, quoi, on va dire. Moi, je suis pas fan des paywalls. Déjà, un, parce que ça emmerde aussi les utilisateurs qui payent. Un exemple tout con, les émissions, elles étaient accessibles sur YouTube, elles ne le sont plus. Et il y a des gens, par exemple, qui étaient premium, qui visualisaient les émissions sur leur télé via YouTube. Et ça emmerde les utilisateurs qui payent pas. Et moi, je pense... Enfin, moi, c'est ma philosophie, hein, après. Moi, je suis plus fan du modèle Patreon. Tu vois. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu fais de la pédagogie, t'expliques que, les mecs, je suis désolé, si vous voulez de la qualité, si vous voulez que le site vive, il va falloir payer. Voilà. Alors, on laisse le site en accès libre pour tout le monde, par exemple, mais il faut payer. Je sais que c'est un modèle qui est encore plus couillu que celui que Gamecult fait actuellement, parce que t'as pas la garantie que les gens vont te payer. Mais c'est plus cette philosophie-là que je préfère, aussi pour une autre raison. J'ai un sérieux problème avec l'idée que l'information de qualité est inaccessible aux pauvres. Je sais qu'on va me dire, oui, 2,50€ par mois, c'est rien, tu vois, c'est un argument que j'entends, mais les gens, on n'a pas que Gamekult à payer, en fait, tous les mois. Et je parle pas que des factures, etc. Moi, je te parle de divertissement en général, quoi. Au bout d'un moment, je sais pas, tu payes le PlayStation Plus, tu payes ton abonnement à tel ou tel jeu, tu payes ton abonnement à ceci, ton abonnement à cela. 2,50€ plus 2,50€ plus 2,50€, à un moment donné, tu dois faire des choix. Et moi, je comprends les gens qui disent, écoutez, moi, dans la grille de choix que je dois faire, Gamekult, c'est pas ma priorité.
Non, mais surtout que... Je trouve que voilà, c'est fait de manière très maladroite. Par exemple, quand tu vas sur un site et que tu cliques sur une news, par exemple, et qui écrit en bas de la page, les journalistes ne s'achètent pas, leur travail, oui. Ça veut dire, en gros, donnez-nous de l'argent parce que sinon, vous ne nous servez à rien, tu vois. C'est limite s'ils t'insultent pas. Et je trouve que c'est fait de manière très maladroite, en fait, de la part de Gamekult. Quand j'ai vu ça, limite, je me suis senti insulté. En plus de ça, enfin, c'est-à-dire que Gamekult, moi, j'ai vu la qualité, ça c'est purement personnel, mais la qualité se dégrader au fur et à mesure du temps. Avec le départ de certains rédacteurs que j'aimais beaucoup, et c'est vrai que les critiques de Gamekult que je lisais toujours, je les trouvais plus intéressantes que sur, on va dire, les autres sites concurrents qui étaient gratuits. Mais maintenant, je me dis, bah peut-être que tu vois, c'est dommage que j'aurais plus accès à des bons tests, voilà, de manière écrite et gratuite. Mais voilà, comme tu l'as dit, il y a d'autres manières de s'informer sur les jeux vidéo. Au pire, si je veux savoir si un jeu m'intéresse ou pas, je regarde un mec qui fait un let's play, je regarde les premières heures de jeu, je me fais une idée du jeu et puis je vais savoir si ça m'intéresse ou pas du tout. Puis comme tu l'as dit, il y a d'autres mecs, par exemple sur YouTube, qui font du travail entre guillemets journalistique, mais sans être des journalistes.
Ouais, et qui sont pas forcément des putes, juste au passage. Non, parce que il y a aussi un sous-entendu derrière qui me dérange, et genre dès que c'est gratuit, c'est... Non, je suis désolé, il y a des amateurs qui travaillent très bien. Alors, c'est vrai que comme le dit Yukishiro, il y a des gens par exemple, dès qu'il y a un peu de qualité en général, t'as un Patreon derrière. Mais ouais, mais un Patreon, c'est pas le même modèle que celui que vous avez. C'est
surtout
pas le même
que
modèle.
En général, c'est amené d'une manière différente. C'est pas amené comme ça du jour au lendemain sur la table. Et moi, je pense très clairement que Gamekult, en fait, en agissant de cette manière-là, va mourir. C'est quelque chose que j'aimerais pas pour eux, parce que je pense vraiment que
je sais pas.
Le site va perdre en visibilité parce que, comme on a dit, les émissions vitrines qui étaient Gaijin Dash et comment s'appelle l'émission là, l'émission de Gamekult en fait,
bref. Gamekult émission.
Voilà. Qui était vraiment mise en avant et qui a apporté du monde. Moi, je pense qu'ils auraient dû garder justement ces vitrines-là pour attirer des gens et sensibiliser les gens pendant ces émissions-là en disant voilà, en ce moment c'est difficile et c'est normal de donner de l'argent. Dans la vie, rien n'est gratuit et ça demande du temps, de l'argent, de l'investissement et que, comme l'a dit Hubert, pendant que les mecs sont en train de faire préparer l'émission, ils sont 3 heures en train de préparer l'émission. C'est pas du temps, ils sont en train de faire des news ou des tests, etc. Donc ça coûte de l'argent à l'entreprise. C'est vrai, mais c'est pas cette manière-là qu'ils auraient dû le faire.
Le problème, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens qui ne payent pas se disent « Ah tiens, ça serait bien que je paye. » Mais si tu me fous tout derrière un paywall, ça va être compliqué. Et je suis désolé, pour moi, c'est pas avec des tests gratuits que tu vas convaincre les gens de payer un abonnement. Il faut qu'il y ait un contenu précis, qui soit un peu le contenu vitrine, tu vois, qui te dise « Ah ok, ouais, ça c'est bien, il faut payer, quoi. »
C'est ça.
Bah ouais, en plus, au niveau com, les codes de partage ne suffisent pas, parce que tu peux pas uniquement avec « Ah tiens, mon pote, voici un code », il faut aussi toucher plus large. Les jeunes qui arrivent et qui commencent à s'intéresser aux jeux vidéo, ils ont pas forcément quelqu'un qui est à côté d'eux, qui va payer Gamekult et leur conseiller le site. Donc ouais, moi ça me gêne vraiment. Après, Gamekult va mourir, ça non, je pense pas, parce que de toute façon, le système actuel fonctionne bien. Donc ça veut dire que tous les gens qui sont là actuellement...
Je précise pourquoi je pense qu'ils vont pas mourir, parce que je rappelle que pendant des années, ils ont fait payer leurs archives. Hein. Parce que je suis un des premiers premiums, hein, donc je sais comment ça marchait. Le premium, au début, tu payais les archives.
C'est-à-dire, tu payais les archives.
Dès que tu voulais accéder à un contenu de plus d'un mois, l'ancien premium, le tout premier, tu payais les archives.
Ok, moi j'étais plus au courant de ça, mais enfin voilà, c'est bizarre parce que j'ai regardé souvent des tests rétro, que ce soit même sur Gamekult.
Non mais c'était il y a longtemps ATH, on parle de l'époque de Nanark et Ragal là.
D'accord, mais et en fait moi la dernière chose qui me gênait en fait sur Gamekult, c'est que tu vois, il y avait des trucs qui étaient disponibles comme ça pour tout le monde, et du jour au lendemain en fait on te dit non on te le retire. Je parlais au tout début quand ils avaient remis l'offre en avant, pour moi ça apportait un plus en fait au site. Et je me suis dit, ok, ça, c'est pas des trucs qui sont, entre guillemets, nécessaires pour la survie du site, mais c'est quand même sympa d'avoir des petits bonus, tu vois. Entre guillemets, c'est comme si c'était les DLC d'un jeu qui arrivaient, tu vois, t'as ton jeu, hop, tu fais ton jeu, t'as les DLC qui arrivent, ok, c'est sympa, j'ai du contenu en plus, c'est cool. Mais là, t'as l'impression qu'ils t'ont carrément enlevé le jeu, tu vois.
Ouais, mais alors là, ATH, là où je veux nuancer, c'est que à un moment donné, quand Yukishiro t'explique que la publicité, ça ne paye plus les salaires Gamekult et que la majorité des revenus viennent du premium, je comprends qu'il fasse ce choix aussi, tu vois. Si, effectivement, comme il le dit, la publicité ne permet plus de rémunérer les gens, ben c'est pas déconnant qu'ils fassent ça non plus. C'est mal fait par contre.
Oui, mais ouais. C'est pas le fait que ce soit payant qui me dérange. C'est le fait qu'on t'enlève un truc qui était à la base gratuit.
Oui, mais ce qu'il te dit, Yukishiro, c'est que ce truc qui était gratuit, il était financé par la pub et que maintenant il est plus financé par la pub.
Ouais, mais du coup tu m'enlèves pas un truc que en fait on avait pendant plus de 10 ans, on a consulté.
Non, mais encore une fois, mais en 10 ans,
ça a évolué.
C'était gratuit, ouais, parce que c'était financé par la pub.
Ouais, mais enfin, GameCult l'émission, c'est le truc qui ramène plus de monde. Tu peux pas enlever la star de ton magazine.
Et encore une fois, les émissions, parce que vous dites que c'est derrière le paywall, non, l'audio reste gratos. C'est-à-dire oui, que tu vas sur... Non, mais parce que c'est important. Pas. Non, mais attends, tu vas pas me dire que c'est important de l'avoir, l'émission. Enfin, si tu veux toujours avoir cette émission, bon, bah, tu payes pas, t'as l'audio, c'est déjà pas mal, je veux dire. Derrière, t'as les émissions, elles continueront toujours à arriver sur YouTube, mais plus tard, donc plus le samedi.
Donc en plus, tu emmerdes les gens qui payent, parce que moi, je suis désolé. Déjà, à la base, je trouve pas normal qu'on ait gueulé pour avoir des trucs téléchargeables en audio, parce qu'à la base, c'était pas comme ça, hein, je rappelle. Et pour moi, c'est super mal foutu. Enfin, ça emmerde aussi les gens qui payent. C'est pas pratique. Pourquoi je peux pas regarder sur YouTube? Pourquoi vous me faites chier avec votre lecteur de merde qui plante une fois sur deux, quoi?
avant Vimeo, c'était quoi? C'était Dailymotion qu'ils avaient. C'était aussi catastrophique, en fait. Mais moi, j'aimais beaucoup les émissions comme 24 FPS et tout ça. J'étais prêt à payer pour ça.
Mais elle existe toujours.
Ouais, mais elle existe toujours.
Ouais, attends, t'as vu la régularité, s'il te plaît.
C'est ça que, depuis d'ailleurs, c'est ça le problème, tu vois, Mandraine. C'est que t'as des trucs et tu... Bah, c'est Noël bientôt, bah, on va faire un 24 FPS sur Noël, mais tu sais pas en fait quand ça va sortir. Au tout début, c'était une fois par mois, quasiment. Et au début, pour donner envie, il avait mis les premières émissions gratuites. Le code du western appliqué aux jeux vidéo et tout. Et j'ai regardé le truc, j'ai fait, ok, ça c'est cool. C'est pour ça que j'ai payé l'abonnement. Et après, du jour au lendemain, je vois que le truc il se barre, puis il revient. Et que le truc il sort de manière sporadique. Là, je fais, non, mais...
Et aussi, même d'un point de vue purement pratique, moi, je te le dis, quand je prenais ma pause au taf, j'allais lire les articles sur GameCult. Moi, j'irais plus sur GameCult, hein, si l'interface, elle est comme ça. Je vais pas m'emmerder à chaque fois que je vais sur GameCult de me connecter pour ne plus me taper toutes les merdes qu'il y a. Enfin, c'est pas possible. C'est plus une source d'emmerdement qu'autre chose, quoi. Et je suis pas fan de ce modèle-là. Voilà. Même si je le comprends, je suis pas fan de ce modèle-là.
Ouais, bah je pense qu'on a terminé avec GameCult, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire là-dessus.
Nope.
Bon, écoutez les gens, on va s'arrêter là pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut.
Bye bye.
Salut.
En espérant qu'on n'ait pas des problèmes comme pour cette émission.